Et Dieu dit que soit Yehi or lumière, wa Yehi, et il fut or lumière, soleil, matin. Et on passe au verset 4. Verset 4, le premier consonne, wav, avec quelle voyelle tous ensemble? A, ça fait wa. Ensuite, un yod, avec un point dedans de redoublement, bravo, qui a comme voyelle un A, ça fait waya. Ensuite, R avec E, wayar, et puis le aleph ne se prononce pas, wayar. Puis vous avez le mot que nous connaissons, Elohim, alors nous ne le relisons pas ensemble, wayar Elohim, que veut dire wayar? Wayar veut dire, et il vit, et il considéra. Et il vit, S, qu'est-ce que c'est que S? C'est rien, ça ne se traduit pas, c'est la marque du complément d'objet direct, bravo. Et il vit, on se pose la question, quoi? Alors c'est la 1, 2, 3, 4e ligne, donc F. Et il vit quoi? Ha, je vous ai dit que c'était l'article, avec or, la lumière. Et Dieu vit la lumière, quille, vous voyez quille, kaf, plus un i long, alors que, et puis vous avez ce mot que nous avons vu dans notre chant, tov, et Dieu vit, en parlant de la lumière, que tov, bonne, bien, que la lumière était bonne. Et je vous ai dit que le contraire de tov, c'était rach. Mal. Ça va, vous suivez? Nous en sommes à la 4e ligne et au 4e mot de cette ligne, Tov. S, A, O, Ki, Tov. On continue. Ensuite, vous avez quoi comme consonne? Wav. Avec quelle voyelle? A, ça fait Wa. Ensuite, Yod, avec un dagesh, un point de redoublement, ça fait Ya, ça fait Waya. Ensuite, vous avez un Bet, mais qui n'a pas de point dedans, ça fait Ve, ça fait Waya Ve. Ensuite, vous avez un Dalet. Qu'est-ce que vous avez sous le Dalet? Un E. Et puis vous avez comme final un Nel, un Lamed. Ça fait Wayav Del. Alors, on garde l'attention et on essaie de traduire ce verset. Alors, je répète à partir du début. Wayar, et il vit Elohim, Dieu, est la marque du complément d'objet direct. Ha, c'est l'article. Hahor, la lumière. Ki, que, tov. Bonne. Nous en sommes à Wayavdel. C'est un verbe qui signifie séparer, faire une séparation. Et puis après Wayavdel, vous avez Elohim. Hein, le verbe vient avant, comme bara Elohim. Wayavdel Elohim, ça veut dire et Dieu fit une séparation. Et là, je me permettrai d'attirer votre attention sur ce mot, faire une séparation, sur ce verbe badal, ici, cet imparfait, wayavdel. La création, si vous permettez ce petit commentaire, est caractérisée dans la Bible, fondamentalement, par une séparation. Dieu sépara la mer et la terre. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous verrez le sec de l'humide. La création est une séparation. Tandis que le mélange est le signe même de la contre-création dans la pensée magique. Quand il y a mélange, eh bien, c'est qu'il y a un acte contre-créateur. Et vous voyez que même cela va marcher au niveau des lois. Toutes ces belles lois du Pentateuque, qui vont interdire le mélange hein, du lait, de la chèvre et tout ça, des animaux et tout ça. Toutes ces lois qui interdisent le mélange, c'est qu'elles ne veulent pas d'actes contre créateur, parce que la création de Dieu est caractérisée par l'ordre, la distinction et la séparation. Et en employant ce mot, et il fit une séparation, c'est une mise en question de beaucoup de divinités chaldéennes, égyptiennes et grecques qui sont caractérisées par le mélange. Et ceci, vous le savez, le taureau ailé, le centaure, le sphinx, voyez, et même les bêtes des apocalypses et de l'apocalypse signifient au fond l'horreur de la contre-création déchaînée. C'est très important de noter, et c'est très impressionnant, que le Dieu biblique n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu qui sépare, qui met les choses au net. La création n'est pas un mélange, une confusion, mais une séparation, une distinction. Vous voyez, tout ce qu'on peut découvrir par les mots et par ce mot Badal, Vayavdel, et il fit une séparation. Alors, Elohim, nous l'avons déjà vu. Ensuite, vous avez Bet, sous le Bet. Et vous avez un Yod qui allonge le E, c'est la voyelle qui est ici au tableau, Ey. Et puis vous avez ce petit limaçon extraordinaire qui est un Noun final, un Noun quand il est final. Alors ça veut dire Bein, et Bein ça veut dire entre. Et il fit une séparation entre. Ha, or, c'est le mot que nous avons déjà vu, l'article plus or, la lumière, et il fit une séparation entre la lumière, ou veut dire et, c'est comme wa, c'est comme we, et vein, c'est le même mot que bein, seulement il n'y a pas le point dans le b, et entre, il fait une séparation entre la lumière et entre ha rod rocher. C'est un mot que nous avons vu hier, rocher, c'est la ténèbre. Et Dieu fit une séparation entre la lumière et entre la ténèbre, et nous avons la joie d'annoncer publiquement que nous avons par là terminé le verset 4, et nous passons avec grande joie au verset 5. Le verset 5 se trouve en quatrième ligne, le dernier mot de la ligne, en partant évidemment à droite. Et vous avez quoi? Quelle est la première lettre? Wa. Bravo. La voyelle. A. Wa. Ensuite, Yod. Un doublement du Yod. La voyelle. I. Y-I. Ensuite, Kof. On ne l'avait pas vu déjà, je crois. Kof. C'est le que, ça. Avec la voyelle E, ça fait que. Ensuite, vous avez le Resh avec la voyelle Alon, ça fait Ra avec le Aleph, qui nous fait toujours plaisir parce qu'il ne se prononce pas, ce qui donne le mot Waïkera. Eh bien, Waïkera, Waïkera, et il l'appela. Hein? Ça vient d'un verbe kara qui signifie appeler, crier à quelqu'un. Lire à haute voix, amener, et si vous voulez là avoir quelques éléments culturels, je vous indiquerai que c'est de cette racine kara, appeler, lire à haute voix, que vient ce mot que vous connaissez, qui est le mot Coran, le Coran, avec cette finale an, qui est caractéristique des mots arabes, spécialement des noms propres. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le Coran? Le Coran s'appelle ainsi parce que le Coran, on l'épelle, parce que on le marmonne dans ses lèvres, et jamais silencieusement par une lecture muette. On ne lit jamais le Coran par une lecture muette, comme des imbéciles évangéliques modernes. Non, on lit le Coran en le marmolant dans ses lèvres. Et c'est sympathique, quand on est devant le mur de Jérusalem, de voir les Juifs qui même impriment la lecture par un pieux mouvement du corps, et ils ne lisent pas la Torah silencieusement, mais ils la lisent avec leurs lèvres, hein, avec tout leur être, avec un culte du corps, avec une lecture cultuelle où tout l'être est embarqué dans la lecture. Hein. Eh bien, le mot de Coran vient de cette racine kara, appelée. Et il appela, on continue, on en est à la ligne 6, par ce mot que nous connaissons déjà, qui est ce mot si beau, Elohim. Et il appela, Elohim, ça veut dire Elohim appela. Là, c'est la préposition pour. Ensuite, or, nous le connaissons déjà, c'est la lumière. Et il appela pour la lumière, Yom, qui signifie jour. Et il donna pour nom à la lumière, jour. Ensuite, ce mot, nous le connaissons. Vous avez we, qui signifie et. Et vous avez la, c'est cette préposition que je viens de dire, pour. Et puis vous avez recherche. C'est ce mot que nous avons vu, que nous voyons pour la troisième fois, qui est la ténèbre. Et pour la ténèbre, kara, c'est toujours ce verbe appeler, il appela, la, après, yod, qu'est-ce qu'il y a sous le yod? Un, e, la, ye, ensuite il y a un second, lamed, avec la voyelle a, et puis un he. Et alors ça fait la-ye-la, et qu'est-ce que c'est que la-ye-la? Eh bien c'est la nuit. Et il appela la ténèbre nuit. Ça va ça? La-ye-la. Et alors ceux qui étaient hier ont su déjà discerner sous le yod, un peu avant de la-ye-la, entre le lamed et le yod, un petit signe très sympathique, qui est un petit signe qui se présente comme ça, comme un trépied. Et j'ai dit que c'était un accent de lecture qui s'appelait un atnar, qui signifie « Attention, prends courage, ne désespère pas, mon frère, ma sœur, on en est là, à la moitié du verset, tu pourras faire reposer ta respiration, reposer ta tête, te recentrer en toi-même, faire retraite pour pouvoir partir plus avant dans le verset. » C'est un point virgule que cet atnar que nous avons sous le mot « l'ayola ». Je rappelle à ceux qui seraient un peu distraits que nous sommes au milieu exactement de la cinquième ligne, la-ye-la. Ensuite, quelle est la première consonne tous ensemble? Wav. Quelle est la voyelle? A. Wa. Ensuite, yod. Quelle est la voyelle? E. Ça fait ye. Ensuite, la consonne he. La voyelle hi, mais un i long. I, on lit le mot ensemble, wa, ye, hi, je vous félicite. Ensuite, vous avez la terreur des théologiens qui est le ein, avec la grappe, le ségol, et ça fait e, on répète tous ensemble, e, très bien. Ensuite, vous avez le resh, bravo, avec la voyelle e, le ségol, ça fait re. Ensuite, le bête, bête, sans point, c'est vœux, bravo, félicitations. Ça fait et rêve. Ça fait waïeï et rêve. Waïeï, c'est et il fut, et rêve, ça c'est le soir, et il fut soir, et on comptait les jours en Israël en commençant le soir. Et il fut et rêve. Un soir, on continue. On en est au troisième mot avant la fin de la ligne. Waïeï. Et il fut. C'est le même mot. Et il fut. Ensuite, la lettre. Bête, bravo. Mais sans point dedans. V avec la voyelle en haut à gauche. O, ce qui fait vaut. Ensuite, cette lettre que nous avons déjà vue, le kof, bravo, qui a pour voyelle le ségol, la grappe, le e, ça fait ke. Et enfin, la lettre finale, qui est le resh. Ça fait voker. Et qu'est-ce que c'est que voker? Eh bien, ça vient d'une racine bakar, qui me coûte beaucoup, qui est s'éveiller, bakar. S'éveiller, évoquer. C'est le jour. Et il fut matin. Ensuite, il y a un petit mot que vous savez déjà, qu'on a déjà vu. Yom, jour. Ehad, un, jour, un. Et qu'est-ce que c'est un en français? C'est la petite colle. Est-ce un cardinal ou un ordinal? Réponse, un, c'est un cardinal. Et alors pour les autres jours, vous aurez, et ça c'est un des grands mystères pour moi, pour les autres jours, vous aurez des ordinaux pour les autres jours, et pour le premier jour, vous avez cardinal. Jour 1, et puis après on dira jour 2e, jour 3e, jour 1. Et pourquoi jour 1? Eh bien, je ne sais pas. Il semble au fond que peut-être parce que l'ordre n'existe qu'à partir du 2e jour, ou bien c'est parce que Dieu était seul dans la création au premier jour, et ce n'était pas un jour comme les autres parce qu'il était seul, peut-être. Je ne sais pas. Mais voyez, jour 1. Alors, nous poursuivons quand même au verset 6. Alors, nous en sommes à la ligne 7. Alors, nous allons lire ce verset. Vous avez la première consonne qui est Wav, bravo. Avec A, ça fait Wa. Ensuite, Yod, avec un doublement indiqué par le point, le dagesh. La voyelle du Yod, c'est quoi? C'est un O, en haut à gauche. Wayo, ensuite, le Aleph qui ne se prononce pas. Ensuite, le Mem, avec la voyelle et ensuite, pour finir, le resh, eh bien, cela fait Wayomer. Et nous l'avons déjà vu, et il dit. Ensuite, le second mot, vous voyez, on connaît tous ces mots déjà, c'est Elohim, et il dit Elohim, Yohir, on l'a déjà vu, Yod, plus E, plus E, plus I, long, Yohir. Ensuite, on lit ce mot tous ensemble, qui est le quatrième de la phrase. Resh, la voyelle A, ça fait Ra. Ensuite, le Kof. Ensuite, le I, qui est comment? Long, avec le Yod. Ça fait Raki. Et puis, ceux qui ont bonne mémoire et quelques sensibilités verront qu'il y a un Aïn en finale, bien sûr. Mais avant le Aïn, pas tout à fait sous le Aïn, juste un peu avant, c'est le patar furtif. Ce A furtif, pour éviter qu'on prononce cette console Aïn, gutturale, vomitive, sans voyelle, sans support vocalique, eh bien, il y a un petit A sympathique, qui court furtivement, en latin fur, le voleur, qui court et qui vient se placer juste avant la gutturale pour qu'on le prononce avant. Alors ça fait que l'on va lire Raki, d'abord la voyelle Ak, Raki Ak. Et qu'est-ce que c'est que Raki Ak? Eh bien, c'est le firmament. Cela vient d'un verbe Raka qui signifie donner des coups de marteau. Ça évoque le martèlement, le travail du marteau. Hein? Vous imaginez une tôle comme ça, et on la travaille au marteau pour la rendre très fine. Voyez, il y a un mot phénicien de la même racine qui signifie carapace de tôle. Alors, c'est l'image d'une plaque métallique qui est martelée, qui est fine, hein? Une image d'une feuille d'or. Et ça, c'est la voûte. C'est la voûte des cieux. Ailleurs, cela signifie tente, cette tente que l'on déploie. Hein? Eh bien, ça, c'est la voûte apparente du ciel qui était, pour les anciens sémites, une coupe solide, une coupole martelée qui retiennent les eaux supérieures. Et c'est par ces ouvertures que va ruisseler le déluge. Et la pluie est considérée, le savez-vous, comme s'ouvrant des petites fenêtres dans cette coupole pour passer et pour pleuvoir sur la terre. Vous voyez, c'est toute l'idée un peu sémitique du ciel. La rakia, c'est l'étendue du ciel. Le mot firmament vient de la traduction de la Vulgate de Saint Jérôme, firmamentum, qui signifie solide. Alors on a quelquefois gardé ce mot firmament. Alors ensuite, on continue. Après Raki A, vous avez la lettre, la consonne, Bet, la voyelle E, peu. Ensuite, la lettre TAV, la finale de l'alphabet, mais qui se prononce FE parce qu'il n'y a pas de point dedans, qui a comme consonne un O long, ce qui fait BE-SO, avec un CAF final qui fait BE-SOR. Alors, BE, c'est la préposition dans, SOR, ça vient de TAWER, c'est le milieu. Dans le milieu, ensuite, vous avez le mot HAMMAIM, HE, A, MEM, avec un point de doublement dans le même. Allons, YOD, I, MEM final, HAMMAIM, ça c'est les os. Et vous avez sous le même un petit ATNAR ici qui vous indique le milieu du verset. Alors, BETHOR, AMAIM, entre les os. Ensuite, nous en sommes au quatrième mot avant la fin de la ligne portant la mention 6, qui commence par la consonne WAV avec la voyelle I, ça veut dire oui, avec I long, bravo, oui. Ensuite, un HE avec la voyelle I long, ce qui fait oui, I. Alors, ça, c'est un jussif que soit. Que soit. Ensuite, M, la voyelle A, ma, ve, avec la voyelle E, ma, ve. Ensuite, dalet plus I, qui est comment long, bravo, ma, ve, di. Ensuite, un lamed final, ma, ve, dil. Eh bien, ma, ve, dil, c'est le mot qui vient de badal, que nous avons vu sous la forme du verbe faire une séparation, et il fit une séparation. Alors, mavedil, c'est une séparation, et il sépare. Je vous dis que la création est caractérisée par une séparation. Ensuite, bein, c'est un mot que l'on connaissait déjà. Bein. Alors, c'est la préposition entre. Maïm. C'est le dernier mot, M, A, Yod, I, Mem, Maïm, les os. Ensuite, La, Lamed, A, Mem, allons, La, Ma, Yod, I, La, Ma, I, avec le même final, La, Maïm, et c'est ainsi que l'on finit le verset 6, qu'on peut traduire un peu comme cela, et Dieu dit qu'il y ait l'étendue ou le firmament, au milieu des eaux et que soit séparé entre eau et eau. Alors c'est par là que je termine, hélas, cette étude de la langue hébraïque avec vous. Mais j'aimerais qu'auparavant, nous sentions une dernière fois notre chant hébreu.
הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד.
הנה, on le double le nun. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד.
הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד. et harim gam yarad. Hine matov umanarim, shevet harim gam yarad. Hine matov umanarim, shevet harim gam yarad. Hine matov, shevet harim gam yarad. Shevet harim gam yarad, hine matov umanarim, shevet harim gam yarad.
Voilà, alors nous allons parler des verbes. La manière de penser, donc la syntaxe de l'hébreu diffère beaucoup de notre manière de penser moderne. Et cette opposition, cette étrangeté de l'hébreu se manifeste surtout dans l'usage du verbe. L'hébreu est une langue nerveuse, extraordinairement musclée, dont le verbe est l'acteur, l'outil principal. C'est à la forme verbale qu'il faut remonter pour retrouver, non sans quelque étonnement souvent, les sources de la langue. Le système verbal hébreu, et ceci est une bonne nouvelle, est plus simple et plus régulier que le système verbal grec. Mais s'il est simple, cela ne veut pas dire qu'il est simpliste et qu'il ne soit pas d'une très grande richesse. Les formes verbales indiquent les différentes formes que peut prendre une même racine verbale lorsque on veut lui faire exprimer, petit a, disons, l'idée fondamentale. Alors à ce moment-là, c'est l'action simple ou légère qu'on appelle kal en hébreu, Q-A-L, qui veut dire léger, simple, qui exprime l'action ou l'état. Si vous voulez, c'est le verbe ordinaire, c'est l'action ordinaire. Ça, c'est la forme kal. Petit b, à partir de cette même racine, de cette forme légère, simple, kal, on peut faire exprimer à cette racine des nuances qu'elle comporte. Ce sont alors des actions qui sont dites dérivées ou augmentées et qui sont comme de nouveaux verbes. À partir d'un même verbe, on exploite des tas de nuances qui existent à l'intérieur de ce verbe. Et en exploitant ces nuances, on crée de nouveaux verbes. Comme en français, mais on n'aurait pas beaucoup d'exemples à donner, je pense à mordre, dont on peut faire mordiller. On crée un nouveau verbe à partir de la racine mordre, si vous voulez. Je pensais à voler, où on peut faire voleter. Où on peut faire voltiger. Et peut-être vous auriez d'autres exemples à me communiquer à la sortie de comparaisons qu'on pourrait faire à peu près avec nos langues. Vous voyez, à partir d'un verbe, on fait sentir et on exploite des nuances. Alors ces nouveaux verbes se forment par le redoublement, en mettant ce point, ce dagesh, par le redoublement d'un des éléments de la racine ou par addition de préfixes ou par l'un ou l'autre de ces deux procédés, l'un et l'autre de ces deux procédés, c'est-à-dire un redoublement et une addition de préfixes. En hébreu, il y a trois voies, une voie active, une voie passive et une voie réfléchie. Ces trois voies sont combinées avec l'action simple, l'action intensive et l'action causative. Alors, si vous imaginez un tableau avec en haut voix active, voix passive, voix réfléchir, et sur un côté action simple, action intensive, action causative, vous devriez arriver à avoir 9 formes. Or, il en manque 2, c'est la voix passive, action simple, et la voix réfléchie, action causative, ce qui nous ramène à 7 formes. On n'a que 7 formes en hébreu. C'est-à-dire que ce verbe simple, kal, peut créer 6 nouvelles formes pour former en tout 7 formes. Ce qui n'est rien par rapport à l'arabe qui en compte 26. L'arabe classique comporte 26 formes. Là, nous n'en avons que 7. Je vous donne un exemple pour vous rendre un peu compréhensible. Si on prend l'action simple « manger », eh bien, à la forme simple active, le verbe sera « il mange ». On indique le verbe en hébreu à la troisième personne du masculin singulier, parce que c'est la personne la plus parfaite. Hein. Alors, à l'action simple active, ça sera « il mange ». À l'action simple passive, ça sera « il est mangé ». À l'action simple réfléchie, ça sera « il se mange ». À l'action intensive, active, ça sera « il dévore » ou bien « il mange gloutonnement », si vous voulez, j'invente un peu. À l'action intensive, passive, « il est dévoré » ou « il est mangé gloutonnement » avec une immense passion. À l'action intensive réfléchie, il se dévore lui-même. À l'action causative active, il nourrit. À l'action causative passive, il est nourri. À l'action causative réfléchie, il se nourrit. Ce qui est très triste, c'est que dans les facultés de théologie, on apprend les verbes hébreux au lieu de les apprendre avec le verbe « manger ». Aral, ou avec le verbe écrire, kathav, on le fait apprendre avec le verbe katal, qui signifie tuer. Et alors, les petites filles, très frêles et très jeunes, tout ça dans la foi, et les petits garçons, très frêles et très sympathiques et très mignons, eh bien, apprennent les formes et les flexions du verbe hébreu avec le verbe tuer, ce qui donne aux formes intensives. Il massacra avec une immense intensivité, il se massacra, il fut fait tuer intensément et apocalyptiquement, voilà. Or, si ce verbe katal existe 3 ou 4 fois dans la Bible hébraïque, c'est le bout du monde. Et je trouve abominable, personnellement, sans être antimilitariste à fond, qu'on fasse conjuguer tous les étudiants en théologie de France et de Navarre et tous ceux qui s'intéressent à l'hébreu, ce verbe katal, tuer, alors qu'il y a aral, manger. Je mange gloutonnement du chocolat suisse. Eh bien, cela n'est déshonorant pour personne, pas même pour les Suisses, vous voyez. Alors, chacune de ces 7 formes, la forme simple, kal, et puis toutes les formes dérivées, augmentées, avec les nuances de passivité, de causativité. Chacune de ces 7 formes a un indicatif qui comprend un parfait et un imparfait. Et c'est tout. Vous comparez avec notre indicatif, hein, et vous adorez. Hein. Un indicatif qui comprend simplement un parfait et un imparfait. Un volitif triple. Ça, le volitif, ce sont les verbes de la volonté. Un volitif trip, qui est le cohortatif, le volitif de la première personne, l'impératif, le volitif de la deuxième personne, et le jussif, le volitif de la troisième personne, qui exprime un souhait. Hein? Qu'il y ait des luminaires, dit Dieu, sur la surface de la terre, eh bien c'est un jussif. En réalité, le jussif est formé à partir de l'imparfait. Tellement l'hébreu est simple, il ne voit pas la nécessité de créer de nouveaux verbes. Alors dans chaque forme, il y a donc un indicatif, un volitif triple, il y a un infinitif double, absolu et construit, et il y a un participe, soit actif, soit passif. Et c'est tout. Ça semble extraordinaire parce que c'est nouveau pour vous, mais si vous le comparez à nos verbes occidentaux, c'est d'une simplicité désarmante. Alors je passe maintenant au temps ou aspects verbaux, pour parler surtout de ces deux temps principaux qui se trouvent dans chacune des sept formes, le parfait et l'imparfait. L'hébreu transcende la succession du temps. Il ne distingue pas entre le passé, le présent et le futur. Du tout. Il ignore ça. Le passé, eh bien, c'est le présent. Parce que c'est le Dieu des hauts faits qui est là. Même l'hébreu, vous le verrez si on étudie un peu plus en avant, l'hébreu n'a pas l'avenir devant soi, mais plutôt l'avenir derrière soi. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. Pour lui, ce qui est sûr, c'est le passé. Parce que le passé, c'est le Dieu des pères. Hein? Alors, il ne distingue pas entre le présent, le passé et le futur. D'une manière plus concrète, il se fonde non pas sur cette succession comme nous, mais il se fonde sur la notion de mouvement. Et distingue deux temps, entre guillemets, mais ça c'est vraiment du vocabulaire de grammairien occidental, deux temps, mieux deux aspects sous lesquels se présente l'action. L'action est décrite sous l'angle qualitatif de son achèvement. En effet, l'hébreu distingue petit 1, si vous voulez, ce qui est achevé, alors ça c'est le parfait, qu'on appelle aussi l'accompli, ce qui est achevé, accompli, qui désigne ce qui est terminé, accompli ou supposé comme tel. Ce qui est terminé, accompli ou supposé comme tel, l'action est terminée, instantanée ou unique. Ça c'est le parfait. Ce qui est accompli, ce qui est terminé. Petit 2, ce qui est inachevé, ça c'est l'imparfait, ou l'inaccompli, ou quand les grammairiens tombent sur la tête, ils appellent le futur, ce qui désigne ce qui est non terminé, non accompli, durable. L'action est soit non encore commencée, soit en cours d'accomplissement, soit inachevé, soit prolongé ou répété. Ce qu'il faut que vous compreniez de tout cela, c'est que l'hébreu n'est pas une langue subjective comme le français. Du tout, du tout. Pour le français, l'action est jugée par rapport au sujet. Sujet qui vit dans un point arbitraire de référence qui est appelé présent. Moi, je suis assis dans le présent et je juge ce qui est passé ou futur. Ça, c'est la mentalité française occidentale. L'hébreu n'est pas une langue subjective comme le français où l'action est jugée par rapport au sujet qui vit dans un point de référence appelé présent. C'est l'image, si vous voulez, du reporter d'une course qui est juché sur un escabeau. Il voit passer des coureurs, et bien quand ils sont avant lui, comme ça, en train de courir, c'est le passé, si vous voulez. Quand ils arrivent devant, c'est le présent, et quand ils sont passés, et bien c'est fini, c'est le futur. Hein? Ça, c'est la mentalité française. L'hébreu, non, n'est pas une langue comme ça. C'est une langue objective. L'action est décrite pour elle-même, objectivement, selon qu'elle passe ou dure, c'est l'image du coureur. Et non pas de celui qui voit le coureur qui est assis sur son escabeau dans le présent, c'est l'image du coureur qui décrit son propre effort. Le sujet, c'est l'action. Voyez déjà les différences. Avant de passer à la Genèse, je voudrais vous parler d'un petit mystère qui vous intéressera. Et là, je passe à un autre sujet que les verbes. C'est l'histoire du queré et du que-tive. Les massorettes, ces messieurs fantastiques, qu'on a appelés aussi les punctatores, parce que ce sont ceux qui ont mis ces petits points pour indiquer les voyelles, avec ce souci de ne pas toucher au texte sacré, de ne pas intercaler les consonnes, mais de mettre des petits points distraits qui servent à la lecture, eh bien ces massorettes ont estimé que dans certains cas, le texte doit être lu d'une autre façon que le texte reçu. Ils ont adopté une convention de lecture leur permettant d'utiliser une variante plus fidèle sans affecter le texte consonantique sacré qui est maintenu, même mauvais, même défectueux. Alors on appelle « ketiv », c'est un participe présent araméen, ce qui est écrit dans le texte consonantique, ça c'est le « ketiv », ce qui est écrit dans le texte sacré, et on appelle le « kerei », un participe aussi un participe, ce qui doit être lu et qui est indiqué en marge. C'est-à-dire les consonnes des voyelles qui sont mises sous le mot du texte. On a laissé le texte défectueux, le querei, et on a mis sous ce texte, sous les consonnes de ce texte défectueux, on a mis les voyelles d'un autre mot qui apparaît plus fidèle au massorète, qu'on met en marge. Ça, c'est le querei. Et on appelle queré perpétuel une lecture que l'usage a fini par introduire dans le texte. Le mot écrit dans le texte consonne, conserve ses consonnes, les quatre lettres sacrées, par exemple, du mot de Dieu Yod, He, Wav, He, que nous avons vu hier. Les consonnes sont conservées dans le texte. Nul n'a pas le droit d'y toucher. Le texte conserve ses consonnes, mais n'a plus ses voyelles. Il a reçu les voyelles d'un autre mot, du queré, ce qui doit être lu, et qui est en marge normalement, mais quand ça devient un queré perpétuel, ce n'est même plus indiqué en marge. On ne l'indique plus en marge, on le sait. Alors par exemple, pour éviter de prononcer le nom de Dieu, le ketiv étant écrit, qui est écrit, yod, e, wav, e, Yahvé, peut-être. Eh bien, on a mis en marge Adonai, un autre mot qui signifie Dieu. Et chaque fois qu'on voyait le ketiv étant écrit Yahvé, on lisait le querei en marge Adonai. Et puis à force, on n'a plus mis le querei en marge et on a laissé les voyelles de Adonai sous Yahvé, et on est sous les consonnes de Yahvé, et on est arrivé à ce barbarisme Yehovah, et je vous ai dit hier très polémiquement, en réponse à une question, que Yehovah n'existe ni au ciel, ni sur terre, ni plus bas que la terre. Si on était, par exemple, je dis quelque chose d'incroyable, si on était témoin de Jéhovah, eh bien on serait témoin en réalité d'un truchement de voyelles. Bon, pour égarer le lecteur distrait qui pourrait prononcer le nom réservé au grand prêtre, qui prononçait une fois par an, encore attaché à la taille par une corde, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, et qui prononçait cela seul avec la divinité son nom, et s'il mourait au bout de trop longtemps de service dans ce lieu très saint, on le tirait à la corde à l'extérieur du lieu très saint, parce que personne n'avait le droit et le pouvoir d'entrer dans ce lieu très saint, et au reste son cadavre pourrirait le lieu très saint. Eh bien, pour éviter que le lecteur distrait s'égare et prononce le nom réservé au grand prêtre, qui est pourtant le vrai nom qui est marqué dans le texte, eh bien, on a fait cette vocalisation du queré qui est introduite sous le ketiv, c'est-à-dire qu'on a mis les voyelles d'un autre mot, Adonai, comme ça, si on n'arrive pas à se rappeler qu'il faut changer de mot quand on voit le tétragramme sacré Yob et Wav et, eh bien, on lit ce qui est écrit, Jéhovah. Jéhovah, ça ne fait rien, ce n'est pas une trop grande faute. Mon professeur d'hébreu, qui m'a appris les balbutiements de l'hébreu, le père Léon Ramblot, a été l'élève de Chouraki, qui était le maire adjoint de Jérusalem. Et c'était un bon prêtre catholique, un dominicain, et quand il a lu sa Torah, sa Bible hébraïque, il a eu un moment de fatigue, d'égarement, et il s'est mis à dire Yahvé. Eh bien, monsieur Chouraki, tout occidentalisé qu'il soit, est parti. Et a laissé le père Ramelot et a repris ses cours 6 mois après. La leçon fut dure. Voyez jusqu'où ça va. Alors, nous prenons maintenant notre texte de la Genèse. Alors, vous prenez votre alphabet que vous mettez à côté de ce texte de la Genèse et nous continuons le verset 3. Nous prenons la troisième ligne de ce texte en partant de la droite. Là, nous avons trois mots que nous avons déjà vus, c'est la fin du verset 2. Nous avons deux points qui indiquent la fin d'un verset et nous avons un petit 3 que j'ai marqué de ma main, qui n'est pas une main massorétique, qui est l'indication du début du verset 3 que nous allons lire ensemble. Vous avez quoi comme première lettre? Un WAV avec un A dessous, ça fait WA. Ensuite, vous avez un YOD avec un point à l'intérieur qui fait doubler le YOD. Et la voyelle du YOD, qu'est-ce que c'est? C'est un O, ce point que vous voyez à peine à gauche du mot en haut. Alors ça fait, en le doublant, WAYO. Ensuite, vous avez un ALEF qui ne se prononce pas. Ensuite, vous avez quoi? Un MEM. Vous avez sous le MEM la grappe, le ségol, le E, et vous avez à la fin du mot quoi? Un RESH. Ainsi, vous savez lire ce premier mot du verset 3, WAYOMER. Ensuite, comme vous avez une petite virgule sous le YOD, vous la voyez? Elle vous indique sagement que ce mot doit être lié au mot suivant, et ce mot suivant, nous l'avons déjà rencontré dans le texte de la Genèse, mais nous le lisons ensemble, c'est le Aleph avec les trois points du ségol, la grappe, le E, mais plus les deux points à côté qui fait un E plus bref. Le Aleph ne se prononce pas, nous ne prononçons que la voyelle E, et nous avons comme seconde lettre un Lamed, un L. Quelle est la voyelle de cet L? Eh bien, c'est le O en haut à gauche. Ça fait E, l'O. Ensuite, vous avez le H, le He, bravo, avec la voyelle I, mais un I comment? Long, à cause du Yod, ça fait I. Ça fait Elohi. Et puis, vous avez enfin un même final, notre carré que nous aimons beaucoup, Elohim. Ces deux mots étant liés par cette petite virgule, on dit Wayomer Elohim. Alors, Wayomer, c'est et il dit, cela vient du verbe amar, dire. Elohim, Dieu, et Dieu dit. Ensuite, troisième mot, Yod avec un E, ça fait Yeu. He avec I long, ça fait I, ça fait Yeu, Hi. Vous avez un petit trait d'union qui vous indique que ce mot doit être uni au mot suivant. Vous avez un aleph qui ne se prononce pas, avec à côté sa voyelle, qui est quoi? Qui est un O long, un wav surmonté d'un point. Ça fait aleph qui ne se prononce pas, plus O, ça fait O, plus le quoi? Le resh, ça fait or. Yeyi, or. Qu'est-ce que c'est que yeyi? Eh bien, yeyi, c'est un jussif dont j'ai parlé tout à l'heure, qui exprime un souhait, que soit. Que soit. Or, c'est lumière, soleil, matin. Ça vient d'un verbe, our, éclairer. Et Dieu dit, que soit. Or, lumière. Ensuite, vous avez wa, wav plus ou, a. Ça, ça veut dire E, c'est comme WE, WA. Ensuite, YOD plus E, WAYE, HI. C'est pareil que YEYI, seulement il y a un WAV devant. WAYEYI, OR, c'est le même mot, lumière. Et vous voyez, nous avons déjà fini ce verset 3